Bonjour à tous. Vous inquiétez pas, ça va tout de même. Hein. Sinon, je ne serai pas là. La chaise est juste au cas où j'ai un petit peu mal au dos, que je puisse me reposer un petit peu. Tiens, oui, s'il te plaît. Non, j'ai dans le nez là. Recule un petit peu. Voilà, merci, c'est gentil. Alors, je voudrais introduire ce moment d'étude de la parole de Dieu simplement en vous posant une question. Qu'attendez-vous de Dieu pour aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce que vous attendez de lui? De quoi avez-vous le plus besoin? Ce n'est pas une question rhétorique. Je vous invite vraiment à réfléchir à ça. De quoi est-ce que vous avez le plus besoin de la part de Dieu dans votre vie? L'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'il y a trois grandes choses dont nous avons besoin quotidiennement dans notre vie. C'est le besoin d'être encouragé dans notre foi. Parce que nous sommes parfois profondément découragés. Peut-être que vous vivez une situation qui vous semble sans fin, une tristesse à cause d'un péché récurrent où vous sentez qu'il y a un domaine dans votre vie où Dieu n'a pas la victoire. Déçu par l'Église, déçu par un ami, déçu par un frère ou une sœur. On sait que la vie à la suite de Christ est la marque de l'authenticité de la foi chrétienne. Ce n'est pas juste une déclaration en l'air, mais où trouver les forces pour le suivre? Nous avons aussi besoin, selon l'Épître aux Hébreux, de nous examiner régulièrement. Suis-je tenté par l'abandon? Y a-t-il un péché dont je ne m'embarrasse pas trop, qui ne me dérange pas, avec lequel je m'accommode? Une transgression flagrante dans ma vie? Je le sais, mais ça m'est égal. Mes proches voient-ils de plus en plus Christ se développer en moi? Le caractère de Jésus-Christ me voit-il lui ressembler de plus en plus? Ma foi, finalement, elle repose sur quoi? Sur quoi repose ma foi? Nous avons aussi besoin d'espérer. Avez-vous besoin d'entendre Dieu vous parler, vous dire quelque chose en particulier? N'avez-vous jamais, dans un moment de détresse, souhaité que Dieu vous parle, crier à Dieu, lui dire « là, j'ai besoin d'une réponse ». J'ai besoin de savoir ce que tu attends de moi. J'ai besoin d'être libéré de ça. Nous avons besoin d'espérer parce que peut-être que l'abattement nous gagne et que finalement, nous ne savons pas en quoi réellement nous confier au quotidien pour vivre notre foi. De quoi avez-vous le plus profondément besoin aujourd'hui? C'est la question du jour. Être encouragé dans sa foi, mais aussi assez examiné, avoir besoin d'espérer. Le livre d'Hébreux parle de cette problématique-là. Vous pouvez ouvrir votre Bible, si vous voulez, à l'Épître aux Hébreux. Et je le rappelle, la prédication va porter sur simplement les premiers versets de l'Épître. Et ça va être l'introduction d'une série de trois études complètes que nous aurons à partir de lundi prochain. Être encouragé, s'examiner, espérer, étaient les besoins de ces chrétiens qui vivaient probablement à Rome. C'étaient de véritables croyants. Aucun doute selon l'auteur. Chapitre 3, on voit qu'il dit que ce sont des croyants. Ils avaient même connu la persécution pour leur foi. Ils existaient depuis plusieurs générations en tant qu'Église, un petit peu comme nous aujourd'hui. Certains ont leurs parents, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs grands-parents, ici même, plusieurs générations se succédaient dans cette Église. Et elle était structurée, comme le voulait l'apôtre Paul. Il y avait des anciens qui étaient là pour assurer que la parole soit bien enseignée. Mais ces chrétiens étaient aussi en danger, en grand danger même, et l'auteur le savait. Ils risquaient de se laisser entraîner par des doctrines séductrices. On voit, il développe ça à la fin de l'épître. Ils couraient le danger d'oublier la véritable parole que leurs anciens responsables, leurs anciens conducteurs leur avaient enseignée. Ce qu'il y avait de tragique chez ces croyants, c'est que spirituellement, certains d'entre eux étaient au point mort. Ils étaient au point mort. Et certains même risquaient de reculer. Certains avaient commencé à retourner à leur ancienne vie, abandonnant l'Église, commençant à renier la foi. D'autres ne faisaient aucun progrès spirituel, alors que la vie chrétienne à laquelle Christ nous appelle est une vie de gloire en gloire, de progrès en progrès, une vie de sanctification. D'autres, encore pire, méprisaient littéralement ce que l'Écriture leur révélait à propos de Dieu. Toutes ces problématiques, nous les développerons dans la série d'études. Mais l'auteur a une seule et même réponse à fournir à ces chrétiens. Et sa réponse est celle dont nous avons encore besoin aujourd'hui par rapport à nos besoins. L'auteur veut leur faire savoir que leur besoin spirituel fondamental est de faire reposer leur foi sur leur connaissance de la suprématie de Jésus-Christ, car il est la révélation parfaite, complète, totale de Dieu. Alors, il prend sa plume et leur écrit cette lettre. Et dans sa tête, il a cette idée. Vous voulez être encouragé, vous êtes lassé, fatigué, mais c'est normal. Vous n'allez pas chercher là où il faut. Vous vous trompez. Et donc, il veut leur rappeler. Mais attention, il n'y va pas de main morte. Il y va directement. Et c'est... J'ai pensé à ça hier soir. Vous connaissez ces reportages qu'on voit à la télé parfois sur les mafieux, avec le GIGN qui débarque à 6h du matin, avec le bélier qui enfonce la porte et qui les réveille. Eh bien, il va les surprendre de la même façon en commençant à leur écrire en toute trombe, à pleine vitesse. C'est le débarquement du GIGN et je vous invite à lire avec moi les 4 premiers versets. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a créé le monde. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Alors, nous allons y aller progressivement et je vous explique un petit peu le plan, l'ordre dans lequel se développe cet argumentaire. Premièrement, l'auteur leur dit que Dieu s'est révélé, d'abord par les prophètes, ensuite ultimement par le Fils. Deuxièmement, il leur fait un portrait du Fils, qui est l'aboutissement de cette révélation. Et il leur explique que Dieu l'a fait héritier de tout et que Dieu a tout créé aussi par lui. Qu'il est, qui il est et ce qu'il fait aujourd'hui pour nous. Il est le reflet de la gloire de Dieu et il soutient le monde par sa parole. Et il leur termine ce portrait en leur expliquant ce qu'il a déjà accompli et obtenu pour nous, la purification des péchés, et qu'il règne dans les cieux au-dessus de tout. Alors, vous êtes prêts à accueillir le GIGN ? C'est parti. Dieu nous a parlé. Dieu s'est révélé. Première chose que l'auteur veut leur faire savoir. Pour l'homme, la seule façon qu'il puisse connaître Dieu, c'est que Dieu prenne l'initiative de nous parler. Sinon, c'est nous qui essayons de deviner qui il est. N'avez-vous jamais eu un moment de doute où vous avez désiré que Dieu vous parle? C'était ma question d'entrée. Eh bien, l'auteur nous dit que Dieu nous a parlé. Dieu a parlé. Quel réconfort pour nous. Dieu n'est pas un Dieu que l'on doit deviner. Dieu est un Dieu qui communique, qui désire se révéler. Et l'auteur précise, Dieu s'est révélé par les prophètes premièrement. Les prophètes sont ces hommes que Dieu a choisis pour être ses canaux, pour se révéler au travers d'eux, pour se faire connaître. Ce sont en gros les auteurs de tout l'Ancien Testament. L'auteur rappelle une chose qui nous montre la pédagogie de Dieu, c'est que Dieu s'est révélé par les prophètes à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Les prophètes étaient là pour préparer le peuple de Dieu à recevoir Dieu lui-même qui s'incarnerait pour se révéler totalement à eux et venir les délivrer de leurs péchés. Vous savez, c'est comme quand on fait la mise au point sur un appareil photo, ou plutôt maintenant, la plupart d'entre vous le font avec le téléphone. Au début, c'est flou et l'appareil, petit à petit, rend les choses de plus en plus nettes. Eh bien, la révélation de Dieu, c'est la même chose. Dieu a précisé progressivement, s'est dévoilé progressivement à son peuple. C'est comme quand on allume la lumière progressivement sur un halogène. La lumière a jailli de plus en plus pour être parfaite en Christ. Et c'est un réconfort pastoral important et pratique pour notre vie de tous les jours. Dieu, nous le découvrons, a choisi de se révéler progressivement et dans un but. Et il n'a pas eu qu'un seul mode de communication. La richesse et la diversité de tout l'Ancien Testament en est un témoignage. Tous ces différents types de livres, la façon aussi dont Dieu a utilisé de façon différente les prophètes pour intervenir. Parfois, c'était des hommes inconnus qui venaient avec un message de la part de Dieu. Parfois, ils étaient rois. Mais Dieu a utilisé plusieurs personnes de différentes manières pour se révéler. Et c'est rassurant de savoir que Dieu prend le temps de se révéler auprès de nous aussi. Et quand nous-mêmes, nous lisons notre Bible et que nous ne comprenons rien, eh bien nous avons l'espérance que plus tard, nous comprendrons, parce que Dieu va continuer de se révéler à nous. Christ avec ses apôtres, c'est encore un exemple. On voit que petit à petit, ils ont compris que Christ s'est révélé progressivement à eux, a expliqué de plus en plus qui il était et ce qu'il était venu faire. Et l'ultime façon de concevoir ce ministère de la prophétie, de la révélation de Dieu, c'est que Dieu lui-même se révèle, et c'était son projet, l'aboutissement de son projet, et c'est ce que dit l'auteur, Dieu s'est révélé par le Fils ultimement. Jésus est le prophète par excellence. Le prophète par excellence parce qu'il révèle Dieu ultimement, car il est Dieu le Fils, venu lui-même révéler qui est Dieu le Père. L'apôtre Jean l'affirme dans son évangile. Et il dit au chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, lui qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Jésus lui-même déclara, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus n'est pas un homme parlant de la part de Dieu comme les autres prophètes, mais il est lui-même Dieu, nous parlant de qui est Dieu. Observez bien dans le texte le découpage de cette histoire de la révélation en deux étapes que établit l'auteur. Autrefois, à nos pères par les prophètes, et dans ces derniers jours, à nous par le Fils. Définitivement. Ce qui coupe l'histoire de la révélation en deux, dans le plan de Dieu, c'est la venue de Jésus. Progressivement jusqu'à lui, et puis définitivement et éternellement jusqu'à son retour et pour tout son plan pour nous dans notre vie au quotidien. Jean Calvin, le réformateur, disait « Dieu a accompli de façon parfaite son enseignement en son Fils, et nous devons savoir que celui-ci est le dernier et éternel témoignage que nous aurons de lui. » C'est pourquoi, tout le temps du Nouveau Testament, depuis que Jésus-Christ nous est apparu avec la prédication de son évangile jusqu'au jour du jugement et désigné par ses expressions dans les Écritures, la dernière heure, les derniers temps, les derniers jours, afin qu'étant satisfaits par la perfection de la vérité de Jésus-Christ, nous apprenions à ne pas en inventer une nouvelle, ni à en accueillir une autre d'origine humaine. Il y a là une implication pratique à propos de tous les étudiants de la Bible que nous sommes en tant que chrétiens. Nous aurons du mal à comprendre et à trouver l'intérêt, l'utilité de la parole de Dieu tant que nous n'en comprendrons pas son unité, son objectif. Et la Bible nous dit que le centre, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Charles Spurgeon, le prédicateur anglais, disait que Jésus est le début, le milieu et la fin. Tout converge vers lui. Jésus est celui qui donne sens à ce que les prophètes avaient dit à nos pères. L'évangile est la raison d'être de l'Ancien Testament. Il prépare et annonce la venue de Christ. En Romains chapitre 15, l'apôtre Paul dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, notre préparation, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Et c'est l'espérance en l'évangile de Christ. L'Ancien Testament aussi est essentiel pour que nous puissions comprendre l'évangile. Jésus n'est pas venu au hasard et Dieu nous révèle dans les Écritures pourquoi est-ce qu'il fallait que Christ vienne. Jésus disait lui-même aux théologiens de son époque « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Eh bien, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » La Bible, dans son entier, est essentielle et harmonieuse. Et il y a ce principe qu'on appelle l'harmonie de la Bible, l'harmonie de la révélation. C'est que l'Ancien Testament jette la lumière sur le Nouveau Testament et le Nouveau Testament sur l'Ancien Testament. Et les deux nous permettent d'être interprétés. Et c'est pour ça que nous devons nous efforcer, quand nous lisons une portion de la Bible, de garder toujours notre vision d'ensemble des Écritures. John Owen, le théologien du XVIIe siècle, disait que nous ne profiterons pas de la lecture de l'Ancien Testament à moins d'y chercher la gloire de Christ dans ses pages et de méditer sur elle. L'auteur nous explique donc que nous n'avons rien de meilleur à attendre comme révélation de la part de Dieu. Elle est parfaite en Christ. Dieu a tout dit en la personne de Jésus-Christ, en venant à nous par son incarnation, par son enseignement, par ses actes, par sa mort à la croix et par sa résurrection et le message qu'il a confié à ses apôtres. Et pour enfoncer cette vérité, l'auteur va mettre encore deux coups de bélier dans la porte. Le premier nous dit que le Fils est l'aboutissement de la révélation de Dieu, car il l'a fait héritier de tout et que c'est par lui qu'il a tout créé. En premier, Dieu donc, il nous dit, l'a fait héritier de toute chose. Normalement, vous savez, l'héritage, c'est ce qu'on reçoit à la fin, quand c'est terminé. Quand quelqu'un a fini ou qu'il est mort, eh bien, nous recevons à ce moment-là son héritage. Que veut-il donc dire par là qu'il a reçu, qu'il l'a fait héritier de toute chose? Simplement, en synthèse, c'est parce que le Fils a triomphé à la croix que le Père lui a remis toute chose. Il a sauvé pour Dieu son peuple à sa demande et Dieu, en récompense, lui confie toute chose. Son peuple, non seulement, mais toute chose dans la création. Toutes les promesses liées à l'assurance de salut pour ceux qui ont placé leur foi en lui sont entre ses mains. Quelle rassurance ! Mon salut est entre ses mains. il n'est pas entre les miennes. Je suis son héritage, c'est moi qui lui appartiens. Dieu m'a donné à lui. Jésus disait lui-même, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 35, « Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Car celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et Jésus, après sa résurrection à la croix, dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'ai tout pouvoir. » Et l'apôtre Paul dit « Rien dans toute la création ne nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. » Parce que nous sommes son héritage. Celui que nous devons écouter, Jésus, le Fils de Dieu, est celui qui peut accomplir ce qu'il promet parce que Dieu l'a fait héritier de toutes choses. John Piper dit « Si Jésus dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre », c'est qu'il peut le faire cette promesse parce qu'il sera propriétaire de la terre et qu'il l'aura sous son contrôle total. S'il dit « Il n'y aura plus de deuil, de cris, de douleur et de larmes », il peut faire cette promesse parce qu'il règnera totalement sur la vie et qu'il aura détruit la mort et la souffrance. Deuxième coup de bélier, par lui il a créé le monde. Le monde à venir lui appartient, vient de dire l'auteur. Et c'est aussi par lui qu'il a créé le monde actuel. Le Fils, il nous dit en gros, est celui par qui le Père met tout en œuvre. Il est au commencement de toute chose, en ce qui concerne l'histoire de l'humanité, mais aussi il est lui-même la finalité de toute chose. Et je vous invite, si vous avez votre Bible, à regarder juste ce texte de Colossiens 1, 16-17, c'est un petit peu avant. En Colossiens 1, l'apôtre Paul dit un petit peu la même chose qui nous est dite ici. Colossiens 1, 16. « Car c'est en lui, ont été créées toutes les choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Vous comprenez ce que renferme cette expression « toute chose ». Tout a été créé par lui. Chaque galaxie, chaque planète, système solaire, notre monde, chacune et chacun de nous, chacun de nos cheveux, chacun des micro-organismes que nous ne connaissons même pas et qui vivent au fond des océans, chacune des molécules de gaz, chacune des montagnes, chacun des anges, même ceux qui sont déchus, Satan y compris. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Certains ont une spiritualité humaniste qui est très centrée sur l'homme. L'homme est au centre de tout. D'autres ont une spiritualité qui est dualiste, où c'est un combat entre le bien et le mal, un petit peu à la Star Wars, entre Dieu et Satan. La Bible nous dit que Dieu est le centre de tout. Alors, je me suis posé une question que je vous pose maintenant, avant de continuer. Pourquoi, regardez l'ordre de ce que dit l'auteur, pourquoi part-il d'abord de la fin pour présenter Christ au lieu de parler du début ? En général, quand on fait la biographie de quelqu'un, on essaie de commencer par le début. Enfin, moi, j'aurais inversé les choses, naturellement. Mais pourquoi a-t-il choisi cet ordre ? Bon, vous allez dire peut-être que je vais me poser des questions un peu trop loin. Mais je me suis dit, c'est comme si l'auteur voulait nous rappeler que le plus important, c'est le contrôle qu'à Dieu sur notre passé et l'espérance qu'il nous offre aujourd'hui. D'abord, il veut rappeler à ces chrétiens qu'ils sont l'héritage de Christ. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas de savoir comment nous étions avant. Tous nos échecs, ce n'est pas ces choses-là que nous devons prendre en considération. Mais l'espérance qui nous est offerte aujourd'hui dans l'Évangile. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir comment aujourd'hui, chacun d'entre nous, là, ce matin, nous allons décider de répondre à la parole de Dieu. L'auteur poursuit ce portrait époustouflant en nous expliquant ce qui est Christ et ce qu'il fait pour nous. Et il donne un éclairage encore plus fort que ce qu'il vient de donner. Il nous dit qu'il est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. La Bible, je vous le dis, met Dieu au centre. Elle met Dieu qui se révèle dans l'Évangile, par Jésus-Christ, au centre de toute chose. Et la Bible met en valeur dans l'Évangile la gloire de Dieu plus que toute autre chose. Pour Dieu, il est impossible d'imaginer un motif plus élevé, plus important que de nous révéler sa propre gloire. Psaume 113, « Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à lui ?» Dieu veut faire éclater sa gloire à nos yeux. Par sa création accomplie en Jésus-Christ, Dieu fait éclater sa gloire parce que la beauté de cette création tire elle-même sa gloire de Jésus-Christ parce que c'est lui qui l'a créée et elle est un reflet de sa gloire. Mais Dieu ne peut pleinement faire éclater sa gloire qu'en son Fils, car, comme le dit Colossiens 1 que nous avons lu tout à l'heure, il est l'image du Dieu invisible. Si Dieu déclare « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur à des idoles, à des faux dieux », en Ésaïe 42, chapitre 8, et que la parole nous dit que Christ est l'expression de sa gloire, c'est que Christ est Dieu. Si vous voulez découvrir la valeur, la beauté, la sainteté, les perfections absolues, la grandeur, la majesté, la souveraineté de Dieu. Et on pourrait énumérer toutes ces qualités à l'infini. Regardez à Jésus. Contemplez-le. Regardez vers lui. C'est ça que veut dire l'auteur. Gardez les regards fixés sur Jésus. En toute chose, il nous a montré qui est le Père. Admirez sa perfection morale, son ministère complet, son autorité sur la création et son humilité dans sa vie au milieu de nous, sa sainteté face au péché et son triomphe sur la croix, et vous comprendrez la gloire du Père. Christ lui-même, plus que tout, veut nous révéler aussi la gloire du Père. De toute éternité, le Père et le Fils se renvoient la gloire et se reflètent la gloire, comme des miroirs face à face. La valeur de Christ aux yeux du Père est infinie. Le Christ révèle la richesse du Père et le Père nous révèle la richesse du Fils en nous l'envoyant. Il a tout remis entre ses mains. Et c'est seulement quand nous comprenons la beauté de cette relation d'amour qu'il y a au sein de la Trinité et de services mutuels où Dieu, par exemple, pour notre salut, dit « Voici, j'envoie mon Fils ». Le Fils dit « Oui, envoie-moi ». Où Dieu déclare « Fais le plan », le Fils l'accomplit et l'Esprit Saint nous en donne le bénéfice, applique sur nous l'œuvre de Christ. Quand nous comprenons l'unité qu'il y a au sein de la Trinité et l'engagement de ce Dieu envers nous, nous comprenons aussi l'amour qu'il a pour nous. Plus Dieu nous révèle sa gloire, plus il nous révèle aussi son amour envers nous. Parce que Christ a accepté de quitter sa gloire pour venir mourir, livré entre nos mains. En Jean 1, verset 14, l'apôtre Jean nous dit « La parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est Dieu lui-même qui veut nous révéler, faire briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, comme le dit aussi l'apôtre Paul. Qui est-il pour nous aujourd'hui dans notre foi, celui qui nous reflète pleinement la gloire de Dieu ? Que fait-il pour nous ? Il soutient toute chose par sa parole. Le Père choisit d'exercer sa puissance au travers du Fils. Jésus a été la parole créatrice. C'est par Christ qu'il a créé le monde. La parole prophétique, c'est par lui qu'il a parlé aux prophètes. C'est lui aussi qui a été la parole révélatrice, celui qui a expliqué pleinement ce que disaient les prophètes. Et c'est lui aussi qui a été l'accomplissement de cette prophétie, la parole rédemptrice, qui vient nous annoncer le salut et qui l'accomplit pour nous. Jésus soutient le monde par sa parole puissante. Et c'est encore un essai de l'auteur pour nous démontrer la sainteté de Christ. Certains pensent que Dieu est un Dieu qui a créé le monde. Ok, ils l'admettent, mais qu'aujourd'hui, il en est totalement étranger. L'auteur nous dit qu'il ne se passe pas une seconde sans que Christ soutienne le monde par sa parole. Regardez quelques déductions. Premièrement, il soutient le cosmos dans son entier, l'univers dans son entier, seconde après seconde, par sa parole. Aucun bourgeon n'éclore sans qu'il ordonne. Il trace la trajectoire de chaque goutte de pluie, nous dit le livre de Job. Il dessine chaque nuage. Les lois de la physique, la gravité, sont maintenues par sa parole parce qu'il exerce son autorité sur toute la création par elle. Rien ne se produit sans qu'il le permette. Et s'il contrôle et maintient un univers infini, que déduire de sa puissance ? Et il soutient aussi l'histoire de l'humanité par sa parole. Il la fait avancer. Il en est le chef d'orchestre. Il connaît parfaitement le futur parce que c'est lui qui le dessine selon son bon vouloir. Et il déroule chaque étape de son plan pour se racheter un peuple à son initiative. Que faisait Jésus sur la croix ? Il soutenait le monde par sa parole. Il soutient ma vie. Mon indépendance est une illusion pour chaque souffle, chaque battement de cœur. Chacun de mes disques lombaires sont dépendants de lui. Et il soutient ma foi. Et par sa parole puissante, aujourd'hui, il nous parle parce que la parole de Dieu est vivante. Elle est comme une épée à double tranchant, nous dit plus tard l'auteur, qui nous pénètre au plus profond. C'est par elle qu'il se fait sentir sa présence, qu'il nous nourrit, qu'il nous fait grandir, qu'il exerce son autorité sur notre vie, qu'il nous conduit pas à pas et qu'il nous soutient dans les épreuves. On n'a pas à chercher des signes dans les nuages. On n'a pas à essayer de deviner ce que Dieu veut nous dire. Il nous dit tout pleinement en Jésus-Christ. Aussi, il soutient son Église par sa parole. Il exerce son autorité par elle. La seule autorité au milieu de nous ce matin est la parole de Dieu. C'est selon elle que nous conformons nos vies. C'est elle qui détermine ce qu'est l'Église. Quelle est la mission de l'Église ? C'est par sa parole que Christ soutient la mission de l'Église. Et vous savez, même les pasteurs, les responsables, ceux qui enseignent, et moi aujourd'hui, n'ont aucune autorité en eux-mêmes. Ils sont dépositaires ici pour relayer l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que les prédicateurs, les enseignants, ne sont pas là pour donner leur avis sur la vie ou comment il faut se faire pour se sentir meilleur ou se déculpabiliser, etc. Leur travail, leur responsabilité, c'est d'avoir un ministère au service de la parole pour que Christ soutienne l'Église par sa parole. Nous avons besoin de l'enseignement quotidiennement de la parole de Dieu. Et l'auteur nous rappelle enfin qu'il a obtenu ce qu'il a accompli et obtenu pour nous. Il a accompli la purification des péchés. Cette simple phrase, si sobre, il va la développer tout au long de l'épître. C'est son introduction. Mais cette courte phrase renferme à la fois toute l'espérance des prophètes et en même temps toute l'ignominie que Christ a endurée sur la croix. Comme le rappelait Patrice tout à l'heure, il a accompli pour nous, une fois pour toutes, la purification des péchés. À la croix, il a pris sur lui la colère de Dieu à notre place et il a offert son sang pour nous. Il a offert quelque chose que nous ne pouvions pas offrir parce qu'il est totalement supérieur à tout. Et l'auteur va donc développer cette pensée-là tout au long. Et il y a une implication capitale pour nous ici, d'ores et déjà. Il y a un avertissement. En dehors de Christ, aucun espoir d'être purifié de son péché. Aucune obéissance, aucune force, aucune espérance placée en dehors qu'en Jésus-Christ ne peut nous purifier de notre péché. Et enfin, il conclut cette introduction en disant qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine, qu'il règne au-dessus des anges. La boucle est bouclée pour l'auteur dans son introduction. Christ règne, Dieu lui a tout donné, il est au-dessus des anges. Et j'aime cette citation de John Bunyan, vous savez, ce pasteur puritain qui a écrit « Le voyage du pèlerin », peut-être que vous connaissez, où il dit « Mais ceux qui disent que Christ n'est pas Dieu font de tous les anges des idolâtres, parce que tous sont en train de l'adorer et qu'il est au-dessus de tous. » Et c'est ce qu'il va développer dans la suite de l'Épître, et je reviendrai sur ce point lundi prochain. Nous avons là le condensé, je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est riche, et j'espère ne pas avoir minimisé toute la beauté de ce passage. Mais en conclusion, voici ce que je voudrais vous dire. Nous vivons dans une société extrêmement pragmatique. Je suis moi-même très pragmatique. J'aime maîtriser, organiser. J'aime penser processus, projet, me projeter. Certains voient la Bible comme un manuel de pratique de la vie chrétienne, avec cette vision un petit peu pragmatique. La foi, c'est du concret, de l'obéissance. Allez hop, il n'y a qu'à faut que, en avant. Il faut faire ci, il faut faire ça. Dieu attend de nous ci, ceci, cela. Et si vous regardez sur Internet ou vous écoutez des prédications à droite à gauche, si vous entendez des personnes qui vous disent qu'il faut faire X choses pour retourner à Dieu ou que c'est en pratiquant telle et telle et telle chose que nous plairons à Dieu, etc. Je crois que ces personnes se trompent. D'autres croient que la Bible est un traité philosophique rempli de plein de doctrines très complexes avec un langage hermétique. Vous vous souvenez comme dans le sketch des Inconnus avec monsieur, comment il s'appelait, monsieur Gentil. On ne comprend rien. Et seuls les experts se comprennent. Et nous sommes baladés. Et ce n'est bon que pour ceux qui aiment réfléchir et polémiquer sur le cosmos, l'univers, l'origine et la fin des temps, etc. Cette vision-là aussi est fausse. Aucune espérance dans ces deux visions, car elles ne comprennent pas le but de la révélation de Dieu. Comment renouveler notre foi ? en redécouvrant la suprématie de Christ et ses implications. Nous avons besoin d'être encouragés, de nous examiner et de trouver l'espérance. Et Christ est totalement, pleinement suffisant pour cela. Quel soulagement pour nous. Quel soulagement pour moi. Contempler la gloire de Christ révélée par les Écritures est suffisante pour me conduire à la repentance, est suffisante pour renouveler mon espérance, est suffisante pour me combler de joie. Loin des Écritures, notre vision de Christ va s'appauvrir, s'amenuiser, se décrépir. Car, comme il le dit lui-même, il est le pied de la vigne et nous devons rester, demeurer en lui comme une branche attachée au pied de la vigne. Nous affermir dans la parole révélée, la Bible, c'est nous affermir dans la parole faite chair, Jésus. Nous avons besoin de contempler la gloire de Jésus-Christ avant toute autre chose. C'est de lui dont nous avons besoin dans notre vie. Et d'une vision qui est celle des Écritures, qui nous fait éclater toute sa majesté et son autorité. Et je clôt avec cette affirmation de John Owen, un théologien du XVIIe siècle, qui disait « Écoutez bien, désirer voir sa gloire est la seule façon d'obtenir la sainteté, la consolation, la satisfaction et la préparation nécessaire pour la gloire éternelle. Comme le Seigneur Christ est le seul chemin qui nous a été donné pour obtenir les bénédictions, combien glorieux devrait-il être aux yeux des croyants ? De quoi avez-vous besoin ? Seigneur, je te prie pour que ta parole vivante, ce portrait majestueux que tu fais de nous dans ta parole, nous soutienne aujourd'hui, que par ta parole puissante, tu soutiennes notre foi, que tu la renouvelles, que tu transperces, que tu ailles au plus profond de notre cœur et que tu te mettes en lumière et que tu éclaires l'obscurité, que tu nous illumines, Seigneur, que tu nous renouvelles et que tu mettes dans notre cœur toi-même ce désir, cette soif d'être purifié par toi et de marcher à ta suite, de mieux te connaître et d'aller puiser dans ta gloire toutes choses parce que tu es totalement suffisant et c'est ce que nous voulons confesser ce matin. Tu es suffisant parce que tu as tout accompli, que tu es parfait. Tu es suffisant pour notre vie et notre foi. Amen.